pour donner un peu d'air. C'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force Claude.
Et bienvenue dans les Vendredis du Sport sur CETA Radio, la dernière de l'année, en ce 29 juin 2015, à mes côtés, Yves.
Salut à tous.
Bienvenue avec Monsieur Philippe.
Salut à tous, salut à toutes.
Là aussi Mika.
Salut à tous et à toutes.
Salut Mika, et oui, après quelques petites péripéties, l'émission est bien lancée, hein. Je fais signe à notre ami Laurent que...
tout va bien.
Tout est réglé, voilà, hop, c'est fait, les conditions du direct, c'est parti pour 2 heures qui vont nous emmener jusqu'au départ du Tour de France 2015, jusqu'aux Pays-Bas. Bien sûr, la première demi-heure multisport avec du foot, du basket, du tennis, Yves va nous le dire dans quelques instants. Et puis après, ça sera 1h30. Bah, finalement, Yves, je suis en train de présenter le programme.
C'est ça.
C'est vrai que je sais que tu es un peu fatigué aujourd'hui, donc j'en profite. Spécial Tour de France 2015 avec toute l'équipe et aussi, pour commencer, avec notre ami Nico depuis Chartres. Nico, est-ce que tu es toujours là?
Bonsoir messieurs, salut à tous.
Salut et bienvenue, tu n'es pas encore les pieds en éventail. On sait que c'est le plan canicule un peu partout. Est-ce que c'est déclenché là? Pas encore?
Oui, on déclenche un peu partout et nous sommes prêts, nous abreuvons pour
Bon, très bien. Nous aussi, on carbure au Tropico Exotique. Voilà, donc pas de souci.
Oasis, plusieurs marques.
Pas de marque à l'antenne.
Ou alors plusieurs.
Non, mais en fait, plus personne n'achète du Tropico. C'est pour ça que je le cite, parce que je crois que ça n'existait plus, cette boisson. Bon, et puis on va parler Tour de France après, bien évidemment, avec tout ce qu'il faut. Et puis, bon, mais c'est les 2 dernières heures avant la coupure pour l'équipe des sports de CETA Radio. Yves, on commence par quoi alors?
On va commencer par le foot. Il y a deux grands événements qui sont en train de se dérouler, on en parle depuis 2 semaines. C'est la Copa América, donc en Amérique du Sud, avec on a le tableau, on a les demi-finales avec une grosse surprise, on en parlera tout à l'heure. Et aussi, et malheureusement, la défaite de l'équipe de France de football féminine avec un gros match face aux Allemandes. Et encore une fois, voilà, on rentre à la maison battu par la Mannschaft féminine. Et ensuite, encore une défaite de l'équipe de France. Ça sera aussi en basket, en finale cette fois de l'Euro. Et on finira par la présentation de Wimbledon, cette partie multisport, avant, comme tu l'as dit Nico, d'attaquer cette heure et demie sur le Tour de France.
Allez, c'est parti, ne tardons plus, place au foot. Et en parlant de football, si vous aimez le foot et la radio, n'hésitez pas à nous contacter en vue de la saison prochaine si vous souhaitez faire partie d'une émission 100% foot. Et oui, il y a cette possibilité. Vous pouvez nous contacter via le Facebook, il va y avoir du sport, ou également le Twitter, @vaiavoirdusport. On salue notre ami Ludo, toujours très actif avec Vincent. Sur les réseaux sociaux, la Copa América, c'est pas une compétition pour se mettre les doigts dans les fesses. Hein.
Exactement. En tout cas, il faut aimer vivre la nuit, il faut veiller, mais on est récompensé quand on veille, puisqu'on a déjà dit il y a 2 semaines, la semaine dernière, on assiste plutôt à des bons matchs avec du suspense et des surprises, Nico.
Une grande surprise avec la défaite hier soir du Brésil face au Paraguay, un Brésil pathétique, très 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 moyen, qui est tombé face à une équipe du Paraguay qui a été très très généreuse et qui s'en est bien sorti, qui revient de très très loin au Paraguay. Ils avaient fini dernier, j'ai revu cette statistique, ils avaient fini dernier des qualifications pour le Mondial 2014, oui. Dernier des qualifications en âme sud, et là ils se retrouvent en demi-finale de la Copa América, sacrée résurrection, dans le sillage d'un très bon Guerrero, alors attaquant, qui fait des merveilles cette année.
Alors on peut revenir directement sur cette surprise, sur ce match avec le Brésil qui a ouvert le score et puis après sur encore une fois une erreur défensive de Thiago Silva, ben à peu près la même action, je sais pas si vous l'avez vu, ben qu'il avait fait face à Chelsea, une main lors d'un duel à la tête où il met la main en l'air, une position complètement antinaturelle quoi, on sait pas ce qu'il met la main en haut là, et le ballon touche la main et encore une fois penalty, et là ben là contrairement à Chelsea où ça n'avait pas porté préjudice, ben là ils sont éliminés.
Mais en termes de jeu, alors qu'ils paraissaient largement supérieurs au Paraguay, ils ont été quand même catastrophiques. Oui. Ils n'ont pas fait grand-chose et le Paraguay en a profité ensuite au tir au but, hein, bien entendu, ça joue sur la loterie, mais ils ont au moins eu la conviction d'aller jusqu'au tir au but. Donc le Brésil, et de toute façon, quand on voit l'équipe de départ du Brésil, c'est inquiétant en termes de niveau à partir du milieu de terrain.
Exactement.
On se pose des questions. Aucun de ces joueurs-là, peu en tout cas, joue dans les grands clubs européens.
Très 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 peu. Effectivement, comme tu le dis, la ligne défensive encore. Bon, il y a Alves à droite. On peut considérer Silva et David Luiz dans l'axe, ça peut aller. Et derrière, il y a Marcelo qui est pas là. Donc, ils ont quand même une ligne défensive qui peut être correcte. Mais par contre, au niveau pour faire le jeu, après, voilà. Et puis en plus, Dunga qui est pas un amateur du football offensif. Si en plus, il a pas de bons joueurs devant comme il avait jusqu'à présent Neymar, mais là, il est suspendu. Il lui sauvait à chaque fois la mise. Là, ça devient très compliqué pour faire le jeu, quoi.
Compliqué. Et puis après la fédération brésilienne pour mettre Dunga à cette place là,
c'est un état d'esprit.
Faut savoir ce qu'on veut hein. Donc c'est pas non plus l'entraîneur le plus offensif qu'on connaisse, c'est pas la star. Certes Solari avait été catastrophique en 2014, mais bon, après est-ce que Dunga est-ce qu'il paye pas aussi le manque de potentiel de son effectif?
Bon, si.
Simplement il subit aussi le fait qu'il y ait assez peu de joueurs mis à part Neymar qui puissent faire la différence en attaque
aussi. Et donc le Paraguay qui affrontera l'Argentine, qui a eu là aussi toutes les peines du monde à éliminer, à passer face à la Colombie en quart de finale, et là aussi ça s'est joué au tir au but.
Ouais, bon là je mettrai un gros billet quand même sur l'Argentine qui paraît très solide, peut-être l'équipe la plus solide des quatre derniers représentants. C'est pas flamboyant
mais c'est solide, mais c'est vraiment pas flamboyant là aussi hein.
Ah ouais, non, c'est pas beau. Ça a au moins le mérite de surfer sur ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde et de tenir en défense. Certes, après, on voit pas trop Messi, quoi.
Contrairement quand même à l'équipe du Brésil, c'est solide derrière, mais par contre, offensivement, ils ont une quantité de joueurs incroyable et c'est hallucinant qu'ils puissent pas marquer plus d'un but. Enfin, ils ont du mal à se créer des occasions, ils marquent pas plus d'un but par match, alors qu'on peut les citer. Messi, Agüero, Tevez, Higuaín, Di Maria, enfin, c'est un truc de malade. Hein. Je pense que potentiellement, ils ont la meilleure équipe du monde, enfin, ils ont les meilleurs attaquants du monde, quoi, en nombre.
Mais avoir les meilleurs, mais s'il n'y a pas l'alchimie, on le sait, l'Argentine c'est ça depuis 10 ans. Parce que s'il n'y a pas l'alchimie, c'est une équipe banale. Et Messi n'arrive pas à complètement créer autour de cet effectif. Voilà. Et on a rarement vu une Argentine flamboyante, clairement.
Mais si...
C'est clair que on voit plus Javier Mascherano comme un leader d'équipe avec cette défense qu'autre chose. Hein.
Mais si, son problème c'est qu'il a vécu que dans un état d'esprit particulier au Barça, il a pas vu autre chose. Et dès qu'on le sort un petit peu de son cocon avec ses habitudes de jouer, toujours dans le même mode de construction de l'attaque, quoi. Et ben c'est pas forcément aussi facile.
Hein. Il est ciblé, Messi. il est découpé en long. Non, mais beaucoup plus qu'à Barcelone.
Ah bah oui, parce que là il y a un arbitrage quand même qui est vraiment très 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 moyen.
Tranquille.
C'est laxiste.
Ouais, exactement. Mais effectivement, comme tu le dis, Mika, à Barcelone, c'est un collectif qui est à son service exclusivement. Et là, il y a tellement de solistes dans l'équipe, finalement, parce que devant, c'est pratiquement que des solistes. Di Maria, Messi, Con Agüero, il participe pas beaucoup au jeu, puisque c'est vraiment un attaquant de surface. Higuaín, quand il rentre, c'est pareil. Donc, au niveau du jeu collectif, pour mettre en orbite Messi ou autre, ça devient plus compliqué, quoi. Nico, non ?
Ah, pardon, oui. Eh ben,
il est d'accord.
Non, je suis d'accord, oui. Et même un Pastore qui était en forme cette saison a du mal à se trouver un rôle, quoi, au milieu de cet effectif-là. C'est très complexe la tâche, mais dans ce genre de situation, habituellement, on écarte beaucoup d'ego et beaucoup d'attaquants qui sont certes très intéressant et qui marque beaucoup de buts, mais on les met de côté pour laisser la place au seul leader offensif.
Tout à fait. Donc c'est là, donc on l'a dit, c'est la demi-finale. Ben, on a commencé par la deuxième en fait, Argentine-Paraguay. Et de l'autre côté, ben, on va passer rapidement sur le quart de finale qui a eu Pérou-Bolivie, deux équipes plutôt outsiders. Même si le Pérou a fait de belles performances, enfin de belles performances, dans le jeu a été vraiment une équipe qui était plaisante à voir. Ils ont battu la Bolivie 3-1. Nico.
Ouais. Et puis on le présentait tout de même parce que le Pérou fait quand même un bon début de compétition et c'est assez logique qu'ils se retrouvent en demi.
Voilà. Et ils affronteront le pays hôte, le pays qui pour moi a réalisé les meilleures performances collectives et surtout et offensivement, qui a proposé le meilleur jeu, c'est le Chili. Le Chili qui a battu difficilement, de toute façon, on ne peut battre que difficilement l'Uruguay. De toute façon, c'est très rare qu'on survole l'Uruguay et ça a été compliqué, 1-0 avec un match très âpre, très dur, très violent et des gestes qu'on n'aime pas voir sur un terrain de foot.
Oui, là je vais laisser Nico en parler du coup parce que je vois qu'il est assez spécialiste sur le dossier.
Non, mais je comprends pas ce qui leur passe par la tête des fois parce que les mecs ils savent qu'il y a des caméras partout qui pourront pas passer à travers. Enfin, je parle pas de ce qu'il fallait les mêmes passer à travers, hein, mais oui. À travers tout ce qu'on voit. Enfin, non, j'ai pas grand chose à dire. Je me dis encore que les footballeurs, il y en a, c'est vraiment des pauvres mecs quoi.
C'est, voilà, en Amérique latine, le problème c'est qu'en Amérique latine c'est énormément sur ça, la provocation, c'est terrible. Et ils n'ont pas l'habitude de se faire sanctionner a posteriori parce que là-bas, alors que là, ça commence à être compétition qui est plutôt vue.
A posteriori du postérieur.
Exactement. Mais Nico, ça pose quand même une question parce que, bon, on parle évidemment de la main aux fesses, pour être encore resté poli, de Jala.
Les doigts dans le panier, oui.
Exactement, le défenseur chilien à Cavani. Ça pose une question parce que avant, on pouvait regarder la vidéo si l'arbitre avait mentionné ça sur la feuille de match. Tandis que là, l'arbitre n'a rien vu et il y a la vidéo qui vient après et on sanctionne Khalad sur de 3 matchs, ce qui moi je trouve complètement normal, mais sans alors qu'il n'y a rien marqué sur la feuille de match.
Oui, on a utilisé la vidéo a posteriori. Quoi.
Parce que des fois, on voit l'arbitre, l'autre quand même, qui s'est passé quelque chose, mais là vraiment, c'est. Et donc, c'est. Voilà.
Mettons-nous à la place de l'arbitre, on ne voit pas grand-chose. Il faut quand même être bien placé quoi, pour voir le truc.
Exactement. Et en plus, après.
C'est inconcevable que.
Exactement. Après, Cavani, en plus, je trouve que Cavani, il ne répond pas très fort. Hein, parce qu'il y en a certains, ils auraient mis peut-être un coup de boule, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a juste une petite gifle.
Il a été à peine dérangé.
Et voilà. Et Jala se laisse tomber lamentablement. Donc, c'est double peine. Jala prend 3 matchs. En plus, il aurait insulté Cavani sur son père parce qu'il y a eu des problèmes familiaux. Enfin, bref. C'est une catastrophe. Il a pris 3 matchs et moi je trouve ça très bien.
Très peu.
Très bien. Mais bon, après, pour revenir au point positif sur le Chili, certes, ça joue très bien. Et puis, c'est une équipe qui commence à trouver de la maturité. Moi, je trouve, c'est voilà, Islam, Edel, toute cette colonne vertébrale,
voilà, avec Bravo
dans les buts, Vidal. Apparemment, il y a le Valdivia là.
Ah, Valdivia, il est énorme.
Qui apparemment est exceptionnel et qui signe l'année prochaine aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, je crois.
Exactement, mais ça fait. Il avait été à une époque, j'étais pas à Marseille, mais ça n'avait pas pu se faire. C'est quelqu'un de très irrégulier, mais avec un talent énorme. Quelqu'un aussi qui, dans sa vie personnelle, est capable aussi de faire quelques sorties nocturnes. Il avait été sanctionné par Bielsa à l'époque. Et lui, par contre, l'avait écarté, contrairement à l'entraîneur actuel qui n'a pas écarté Vidal. Mais c'est techniquement et au niveau du potentiel, c'est un joueur extraordinaire. Mais bon, faut suivre. Voilà, là, il a joué à Palmeiras notamment au Brésil. Mais voilà, il est évidemment en Europe beaucoup moins connu. Mais on le voit sur les matchs. Il a une vision du jeu. Enfin, c'est vraiment très très bon. Un 10 à l'ancienne, très très impressionnant quoi. Et donc, moi je vois le Chili. J'espère que le Chili arrivera au bout, Nico.
Je pense que la logique peut ne pas être respectée hein, sur la compétition. On voit bien l'Argentine aller au bout. Et je sais que le Chili est à domicile, qu'il est porté par le public, il est porté par, à mon avis, pas mal de choses, ils se permettent beaucoup de choses, les Chiliens, sur le terrain, donc à voir. Mais bon, je les vois passer les demi et aller en finale.
Même si, contre l'Uruguay, c'était vraiment, ils finissent à 9, peut-être que Cavani ne le méritait pas, mais
le jeu, il mérite largement.
Ça y allait gaiement, hein, comme on dit. Allez, avant la pub, on a une petite minute pour parler. On continuera
filles,
après. Voilà, exactement, des filles. Voilà, c'était un très bon match de l'équipe féminine à la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Malheureusement, c'est une défaite au pénalty, Nico.
Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est vraiment déplorable parce que la France a en plus dominé la rencontre et se retrouve à la toute fin dans les 10 dernières minutes avec ce penalty très très sévère, je trouve, sifflé contre elle, alors qu'elles ont vraiment bien bien dominé. Et après ça joue à la loterie, mais quelle belle équipe quand même, parce que franchement, en termes de niveau, c'était très intéressant. Moi, je vois une progression énorme hein, depuis 4-5 ans, ouais. Depuis que cette équipe de France féminine est médiatisée. Que ça progresse de plus en plus.
Hein. Surtout un engouement autour, c'est vrai que les gens suivent, ils vont presque au bar boire un coup en regardant le match.
Hein. Et même le niveau des joueurs, Nico.
Oui, là, ouais.
Franchement, en termes de jeu, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a 4-5 ans à regarder, hein, sans problème.
Nico, on va devoir faire la coupure et on revient tout de suite après pour parler notamment des filles pour le tennis. Encore, faut que je parle, Mika, ouais.
Et
encore 10 secondes, mais ça fait plein de fois que tu fais 10 secondes.
Et le basket.
Le basket, on parlera des filles, ouais, aussi. On parlera
de,
je sais pas s'il y a des filles à Wimbledon, oui, sûrement. Il doit y avoir Serena qui traîne dans les gazons là-bas. Bon. On fait la coupure, Mika, t'es prêt? Encore 10, mais décidément, tu te fous de moi hein, ce soir.
Il comprend pas.
Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, décollage immédiat. Restez sur cette radio jusqu'à 21h. On va présenter le tour également, bien sûr. Ça part samedi.
C'est ta radio. Pop. Rock. Sport. C'est ta radio. Pop. Rock. Sport.
Pour donner un peu d'air, c'est clair. Pour plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère.
Et là, oui, la parité s'est instaurée dans les valeurs du sport après près de 10 ans d'existence. Il a fallu du temps, Nico, hein, pour qu'on parle vraiment des filles.
Oui, mais il y a de quoi en parler surtout. Il y a de quoi. Mais tout part de l'engouement médiatique. Hein.
Ben c'est un cercle vertueux.
Du niveau de l'équipe. Oui, c'est un cercle, oui. Totalement.
Mais malheureusement, moi, je chanterais plutôt la chanson. Et maintenant, parce que je pense que l'engouement médiatique restera tant que l'équipe de France et les équipes de France restent. Je mets pratiquement dans le même panier le basket. Et au niveau du championnat, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ça va pas lancer le sport féminin, que ce soit en football exactement ou en basket féminin, parce que le niveau est beaucoup plus bas et je vois un engouement ponctuel, on va dire.
Oui, non, mais il y a pas de grande vague. Tu vas pas avoir des licencières entre guillemets qui vont arriver dans tous les sports, mais c'est quand même important. Qu'est-ce qui se passe en football, en basket, en handball? C'est quand même très important quand tu vois que la finale d'hier est programmée sur la 2 à 19h. C'est primordial. C'est primordial. Tout comme le foot qui fait combien? Qui fait presque 4,5 millions de spectateurs sur W9, en tout compte.
Je suis d'accord, mais tu te rends compte aussi que tu es dans une superbe génération et que ça arrive pas tous les ans ou tous les 4 ans d'être à aussi haut niveau. Ça fait quelques temps qu'elles sont à ce niveau-là, sans passer, sans gagner surtout, sans finir les 3 premières. Et ça, c'est préjudiciable parce qu'il suffit qu'elles ratent une ou deux compétitions d'affilée et tu as un trou de 8 ans. Quoi. Et là, c'est pas mal.
Si on veut comparer, Nico, on voit les footballeuses qui montent vraiment d'un point de vue médiatique. Si on veut comparer avec des hommes, par exemple au volley, où il y a eu des grosses générations où ça a marché fort, il n'y a pas eu cette médiatisation, il n'y a pas eu autant d'audience puisque ça passait très peu aussi. Les nombres de licenciés du coup n'est pas forcément augmenté non plus. En ce moment, on a une très bonne génération au volley. On verra si dans 2-3 ans, il y a autant de médiatisation et si ça passe à des heures de grande écoute sur des chaînes gratuites à la télévision.
Et vu qu'on parle de...
C'est une anomalie ce qui se passe en ce moment au volley. Alors que l'équipe de France est plutôt très. Enfin voilà, elle fait de bons résultats. C'est une anomalie de ne pas aller voir plus haut quand même en termes d'audience, hein, en termes de
visibilité fusion. Hein. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il faut dire quand même, qu'il faut le féliciter, les équipes de France de sport collectif sont plutôt en bonne forme. Hein, que ce soit basket féminin, même masculin, il y a que le foot masculin qui est un petit peu, mais tous les sports.
Aussi.
Exactement. Mais finalement, c'est les deux sports majeurs, les équipes de France sont vraiment bien, mais les autres sont. Donc, effectivement, s'il faut passer le volet, s'il faut regarder tout ça, on n'a pas tous la chance d'avoir ma femme comme compagne qui me laisse regarder tout ça.
Et non, on ne peut pas tous la voir parce que ça va faire des histoires après.
Exactement.
Si on a tous la femme. Mais plus sérieusement, par rapport à cette hégémonie autour du sport féminin, très très bonnes audiences ce week-end autour de la course de championnat de France de cyclisme sur route féminin remportée par Pauline Ferrand-Prévot. De très très belles audiences pour France Télé malgré les commentateurs plus que moyens. Cela ne nous regarde pas. On parle aussi de basket, donc ça c'est fini basket.
Ben oui, c'est dit. Alors contrairement au foot où là par contre elle méritait peut-être même de battre ses Allemandes, même sûrement au niveau du jeu. Ben en basket par contre il y a pas eu photo avec la Serbie, Nico.
Pas photo, défaite 76-68 alors qu'elles partaient favorites, les Françaises. Oui. Faut le signaler, elles étaient grandes favorites de la finale et elles se sont fait croquer, mais de manière tout à fait normale, totalement dominée par la Serbie. Alors voilà, l'équipe de France, c'est encore vraiment, c'est presque parallèle à l'équipe de France de foot. Alors que même si elles ont plus de durée, on va dire en basket, ouais. Ça fait depuis de longues années que ça dure avec toujours la même équipe. Ça passe encore une fois à côté, mais malgré tout, ça reste une super performance. Elles ont fini deuxième au JO en 2012, deuxième au dernier Euro en 2013. C'est sur le fil à chaque fois. Hein. La dernière grande médaille, c'était en 2009. Rendez-vous compte, ouais. On est déjà en 2015, et c'était encore une fois les mêmes joueuses. Donc
c'est ça. Donc voilà, génération vieillissante. Alors il y a quelques jeunes, mais quand les anciennes vont arrêter, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que quand on a des belles générations, faut scorer, voilà, faut ramener. Et moi ce qui me fait peur, c'est plutôt ça, que ce soit en foot féminin ou en basket féminin, c'est que on a du mal à concrétiser par des places sur le podium, quoi. Voilà. Et bien maintenant on va parler un petit peu tennis, puisque on a parlé il y a 3 semaines Roland Garros, et maintenant il y a Wimbledon qui commence.
Wimbledon qui commence.
Je vois des montres, Moya.
Laissez parler, taper la balle un peu, Nico.
Il n'entend pas.
J'entends pas le jingle.
Alors, il y a déjà eu quelques matchs aujourd'hui et nous parlons de tout ça. Les favoris pour toi?
Oh, les favoris.
On les connaît.
Ils sont encore au nombre de 3, à mon avis, parce qu'il faut mettre Nadal de côté qui est à la retraite.
De
miracle en revenant en forme sur gazon, ce serait quand même une sacrée hérésie. Ce serait utopique pour lui, non? Faut parler surtout de Djokovic qui peut faire le doublé et qui va venir très revanchard. Faut parler de Federer qui paraît dans la forme de sa vie à l'aube d'un Wimbledon. Ça faisait plusieurs années que c'était pas le cas. Et faut surtout parler de Murray qui joue à domicile et qui paraît lui aussi en bonne forme. Voilà, je vois pas d'autre outsider pour ce Wimbledon 2015.
Pas de surprise comme à Roland Garros, même si Wawrinka était quand même à très bon niveau, mais pas de surprise.
Ouais, bah si Wawrinka fait du Wawrinka, il doit s'écrouler en 8e de finale à Wimbledon. C'est-à-dire qu'il fait comme c'est le yo-yo permanent avec lui. Non, si tu regardes le tableau, on a Federer, Nadal et Murray dans la même partie, ce qui est quand même à noter, tout en sachant que Federer peut croiser rapidement Berdych en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Murray et Nadal sont dans la même partie. Djokovic a le champ libre. Djokovic a Nishikori en quart de finale. Mais ce sera peut-être le plus gros morceau d'ici là. Après, il peut sortir un outsider, hein, Raonic. Voilà, c'est assez ouvert derrière, mais ça m'étonnerait que ça échappe à l'un des trois du Big Four.
Par contre, côté français, c'est un petit peu inquiétant, parce qu'on voit personne. Voilà, Tsonga n'est pas. On l'a pas vu jouer au tennis depuis Roland Garros. Clairement. Et puis après, côté français, l'herbe, voilà, c'est.
Ouais, et puis c'est pas une philosophie française, quoi, de jouer sur herbe. Dans les clubs en France, il y a très peu de terrain de gazon. Quand on est jeune, si on n'en fait pas, après, pour s'y mettre, c'est pas évident.
Il y a Mahut qui réussit bien sur herbe et qui a de bons résultats.
Et Yodra aussi.
Voilà. Les Mahut.
Super
ouais.
Résultat.
Ouais, tout à fait. Dernièrement.
Il gagne un tournoi. Il est sur 8 ou 9 victoires d'affilée. Non, et même on parle de lui même pour l'équipe de France de Coupe Davis. Hein, donc,
ouais, j'irais. Oui.
Oui, non, c'est quand même dire. Il est 65e mondial, hein, 8e, voilà. 8e français. Donc c'est quand même. Il part de loin. Non, mais mon fils est d'ores et déjà mis de côté sur Herbe. Simon va galérer également. On parle de Tsonga, mais Tsonga c'est un peu inconnu. Voilà. Gasquet à voir. Non, c'est pas là-dessus qu'on risque d'être les meilleurs. Hein.
Exactement.
Non, et puis ça tombe à plein Tour de France, donc c'est foutu pour eux. On parlera pas de ça de toute façon.
Bon, allez, on a fait l'éloge des femmes. Tu veux parler un petit peu des féminines?
C'est important de parler des féminines parce que là on est sur un potentiel exploit. Serena Williams qui reste sur donc 2 victoires en Grand Chelem, Australie, Roland Garros, peut faire tripler avec Wimbledon et concourir pour l'US Open pour le grand Chelem, chose jamais faite avec
sur l'année,
chose jamais faite sur le tennis. Si, ça a été fait mais par les anciens et par Steffi Graf en en 88, à ce que je lis.
Ah ouais, c'est dire si c'est très difficile de remporter ces quatre grands chelems d'affilée.
Oui, ah. C'est la première fois qu'elle sera dans cette situation-là.
Ouais, bon, mais messieurs, on va refermer cette belle page
ah
tennis.
Oui, il veut passer au cyclisme, je sens bien.
Qui m'a donné beaucoup d'engouement. un peu autant que Steven Tronet hier, Nico, hein, tu as vu ce beau champion de France, c'est une belle surprise.
Ah là là, on passe de Serena Williams à Monsieur Tronet, que dire de plus? On s'incline.
Ah oui, non, Steven Tronet qui c'est exceptionnel, c'est les belles émotions du vélo. On a eu des très beaux championnats de France hier. On devrait avoir un Tour de France assez exceptionnel parce que tous les plus grands cyclistes du monde seront au rendez-vous. Il y a pas vraiment d'absent du côté des Cador, donc là celui qui gagnera il y aura rien à redire. Bien que l'an dernier finalement au départ, ils étaient tout ça aussi. Il manquait que Quintana la dernière. Hein. Je vais pas vous en dire plus. On va remercier Nico, mais bien qu'il a envie de rester, là, j'entends.
Salut à tous.
Bonnes vacances, Nico. Hein,
bonnes vacances.
À bientôt sur les ondes ou ailleurs.
Salut. À bientôt, messieurs.
Ciao. Et donc nous allons lancer cette partie cyclisme. Eh oui, 1h30 de cyclisme jusqu'à 21h. Et bienvenue au Tour de France. Et non, nous n'avons pas récupéré Daniel Mangias. Beaucoup de changements, Philippe, hein, sur le Tour de France. Plus Daniel Mangias à l'arrivée, plus Jean-Paul Olivier sur les plateaux. Il reste que Thierry Adam. Hein.
Il reste quand même Polo La Science. Il reste puisqu'il revient à ses premières amours. Il sera sur la radio,
ouais,
Jean-Paul Olivier.
C'est sur Europe 1, c'est ça ?
Non, pas sur Europe 1. Une radio qui a un peu de la publicité également bleue, c'est France Bleu.
Ah, France Bleu
qui retransmettra tous les départ d'étape, donc qui est une radio de Radio France régionale, et donc tous les départs d'étape sont retransmis en direct. Ça également, c'est un événement qui avait lieu dans les années 50 à la radio, et on le reprenne avec Polo La Science. Je crois qu'on va se régaler.
On va se régaler, et puis c'est vrai qu'on va attendre de voir comment se débrouillent les petits nouveaux, notamment Eric Fotorino, oui, qui s'occupera de pas des rétros, hein, mais de ce que j'ai compris, il a surtout travaillé en préparant des petits reportages en amont pour par exemple les diffuser dans des moments clé. Hein.
Oui, puis on le connaissait effectivement, il avait joué écrit pour Le Monde, des choses comme ça.
C'était le patron
donc,
à l'époque. Ouais.
Ouais, non, je patron pense que monde. C'est une grande plume, donc ça sera différent, mais ça sera tout aussi intéressant pour les téléspectateurs.
Allez, c'est moi accueillir notre ami Ludo. Est-ce que tu nous entends depuis les terres du Puy-de-Dôme?
Oui, bonjour, je vous entends très bien, oui. Il y a Clermont.
Ici à Clermont.
Clermont, le Puy-de-Dôme. Juste pour une petite information là, puisqu'on m'a dit qu'il est au Puy-de-Dôme.
Non, c'était une blague parce que.
Mais le Puy-de-Dôme, ça me rappelle
quand
même.
Vous avez parlé avec Poulidor et tout.
Ça me rappelle effectivement Poulidor. Et pour vous signaler qu'il va être diffusé sur France Télévisions un film assez exceptionnel sur Raymond Poulidor.
D'accord.
Voilà, là, ça sera lundi prochain. Voilà, il n'y aura pas Radio Vélo, mais sur France Télévisions.
Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas le.
Voilà, un beau film
c'est pas pour l'amour et
sur Raymond Poulidor. Voilà. Raymond Poulidor.
Bon, le Tour de France, ça. Oui, Ludo.
Pour Philippe, donc sur les terres de Raphaël Gemignani, par contre.
Ah, Raphaël Gemignani, le grand fusil, effectivement, qui avait failli gagner le Tour en 1958 et qui n'avait pas gagné. Et voilà, un grand coureur. Je crois que c'est un des plus anciens, d'ailleurs, coureurs du Tour de France encore en vie, Raphaël Gemignani, qui a commencé à courir le Tour, je crois, dans les années 50-51. Voilà, je me rappelle d'ailleurs des vieux reportages radio sur Radio Clermont-Auvergne, à l'époque, ça s'appelait.
Ah, c'est trop pointu.
Où l'interviewé, effectivement, Raphaël Gemignani, retour au pays, retour à Clermont, après ses exploits de Tour de France, je crois que c'était 1954.
Et oui, maintenant, on évite de surnommer les gens le grand fusil par les temps qui courent, parce que j'y pirate et tout, ça fout le bordel. Le Tour de France 2015, et oui, je vous ai annoncé, je commence à vous le vendre un petit peu. On va continuer la présentation avec les copains de Radio Vélo à partir de 20h. On reviendra sur le championnat de France également. On parlera eh bien de tous les favoris, des Français qu'on peut attendre. On parlera aussi de cet ouvrage, les 40 ans du maillot à poids, réalisé par notre ami Pierre Carré de Direct Vélo. Il sera avec nous pour en parler. Et puis, bien évidemment, les pronostics de la team Radio Vélo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait envie de se poser un petit débat avec l'équipe d'Ivoire du Sport. Mika, c'est l'heure du débat. Le Tour, est-il l'événement sportif préféré des Français? Le Tour de France est-il toujours l'événement préféré des Français? Telle est la question du jour, Philippe.
Ah, telle est la question du jour. Moi, j'ai bien sûr ma petite réponse. Le Tour de France est, je pense, l'événement préféré des Français. Je dirais événement, je dirais pas sportif, effectivement. Exactement. Parce que tous les Français, même ceux qui ne font pas de sport, effectivement, s'intéressent au Tour de France, tout simplement parce qu'ils l'ont déjà vu au moins une fois dans leur vie passée près de chez eux. Et ça, je crois que c'est le seul sport qu'on a vu près de chez eux, à part peut-être le match de foot. Encore, s'ils ne s'intéressent pas au foot, on n'y va pas nécessairement sur un stade, mais là le Tour de France c'est nécessairement
dans la rue quand elle est bloquée à un moment donné,
on l'a vu effectivement et c'est encore un des rares événements où les gens prennent régulièrement des jours de congé pour aller voir le Tour de France. Donc c'est l'événement à mon avis qui est le préféré des Français. Maintenant, au niveau sportif, je pense que les purs sportifs, effectivement, préfèrent peut-être des Coupes du Monde ou peut-être des Jeux Olympiques parce qu'ils ont fait de l'athlétisme ou ils ont fait de la natation, des choses comme ça. Mais quand même, le Tour de France, pour moi, ça reste l'événement préféré des Français.
Oui, et puis préféré des Français aussi parce que ça tombe à la bonne période. La Coupe du Monde de ski alpin en plein hiver, quand il fait froid, que vous bossez, c'est quand même moins sympa que quand vous êtes en vacances en juillet, que vous pouvez aller les voir au bord de la plage ou à la montagne. Et comme tu dis, je te rejoins un petit peu, ça permet aux gens qui ne sont pas spécialistes d'un certain sport d'adhérer par la caravane, ça fédère énormément chez les jeunes notamment.
Oui, voilà, mais enfin, comme l'a dit Philippe, moi je suis plutôt d'accord. Les gens, il y a beaucoup de gens qui regardent le Tour de France à la télévision pour les paysages. Oui, faut être clair et net.
Donc,
du coup, c'est pour ça que tu dis l'événement préféré des Français, oui, mais pour eux, c'est presque pas un événement sportif. Quoi. C'est qu'on regarde tout, on s'intéresse un peu à la course.
L'événement préféré des Français pour voyager, pour faire la sieste, pour plein de trucs. Hein.
Pour cuisiner avec Village Départ le matin.
Ah, il a mis le relais.
Ouais, et puis ça quand même. Enfin, un petit peu culturel, parce que ça permet, grâce à la télévision maintenant et grâce à d'autres médias à l'époque, de découvrir un petit peu la France et découvrir effectivement des paysages qu'on ne pourrait pas voir parce qu'on ne s'est pas déplacé ou autre. Donc, beaucoup d'enfants, maintenant et même d'adultes, ont appris la géographie française grâce au Tour de France. Voilà. Donc,
Ludo, événement sportif préféré des Français ou pas?
Ouais, je vous rejoins, surtout, Philippe, hein, puisque j'avais mis, événement sportif, ça, c'est sûr qu'avant, il y a quand même la Coupe du Monde et les JO, mais pour moi, comme Philippe, c'est l'événement sportif, c'est l'événement tout court qui est bien aimé. En France, comme on l'a dit, ça permet de découvrir la France, hein, tourisme, culture, les images d'hélico, maintenant de drones, maintenant, c'est vraiment somptueux. Et puis, il y a toute la fête qui est autour du Tour de France, on retrouve toutes les couches, je sais pas moi, socio-professionnelles, sur le bord de la route, on est tous logés à la même enseigne et on fait tous la fête.
Bah, tout chaud, on transpire. Hein. Pas tous, il y en a qui ont des caravanes dernier cri, puis il y en a d'autres et ils montent à vélo, quoi.
Oui, mais bon, par rapport à d'autres sports, quoi, voilà, c'est gratuit, c'est le champion et les grands champions qui viennent vraiment dans des petits villages, même des fois, cette année, ça passe dans un village qui s'appelle Livaro, et ben voilà, il y aura les meilleurs cyclistes au monde qui viennent dans ce village.
Et oui, on pourrait
pas voir ça avec le foot.
Les meilleurs cyclistes, là où il y a le meilleur fromage, à plus, Sudo.
En plus, oui, en Normandie, non, je sais plus.
Oui, Livaro, qui est le nom d'un fromage en plus là-bas, que j'avais visité par là-bas.
Et quoi, il n'a pas besoin du Tour de France pour connaître la France.
Non, mais il y a plein de courses là-bas, il y a Paris Camembert, ça arrive à deux pas de chez Livaro.
Et j'en veux pour preuve de ce qu'on dit un petit peu, que malgré toutes les affaires de dopage qu'il y a eu, ce creux-là, finalement, ça n'a jamais empêché les routes d'être à rabord, le nombre de téléspectateurs a continué pareil et je pense que c'est l'une des raisons, c'est celle-là, c'est plus pour ce qu'il y a autour du sport que ça.
Oui. Yves, quelques petits chiffres, c'est 15 millions de spectateurs sur le bord des routes, 3,5 milliards de téléspectateurs dans le monde, et puis par exemple sur France Télé, Eurosport, là ça fait des audiences absolument magnifiques, et on n'oublie pas que c'est en plein été, que l'arrivée à 17h qui fait beau, que les gens pourraient avoir autre chose à faire, et ben non, ils sont quand même allés 6 millions devant l'étape du Tour. Et puis un autre chiffre, c'était un petit sondage de 2012, donc pendant un peu toutes les affaires de dopage, et ben un Français sur deux, et pas seulement les gens qui aiment le sport, mais un Français sur deux déclarait aimer le Tour de France, donc ça veut tout dire quand même.
Oui, moi je me rappelle même une phrase des politiques, c'était dans les 50, ça date, mais c'est quand même d'actualité encore, il disait pendant un mois, on n'a plus de problème parce qu'il y a le Tour de France.
Et voilà, oui, des chiffres,
ce qu'il disait. Autre petite chose, le Tour de France intéresse un petit peu moins les Français sportivement à l'heure actuelle. On pense plutôt au paysage et à autre chose. Tout simplement parce que moi, j'ai connu l'époque où les Français gagnaient le Tour de France, où les coureurs français gagnaient le Tour de France. Et là, quand un coureur français est en passe de gagner le Tour de France, ça devient vraiment une épreuve sportive. Et là, on pense vraiment au sport, aux secondes, est-ce que le Français va gagner. On revient vraiment au sportif. Mais là, depuis quelques années, effectivement, depuis 85, les Français ne gagnent plus le Tour de France. Donc, ça devient un événement un petit peu différent. Donc, un événement.
Voilà. Philippe, regarde, l'année dernière, quand même, deux Français sur le podium.
Ah, mais l'année dernière, ça a bien failli. Donc, l'année dernière, effectivement, la pression est montée un petit peu. Si on a des Français capables de gagner, effectivement, d'avoir le maillot jaune et de le garder. On avait connu ça un petit peu qu'à l'époque de Vauclair. Je me souviens quand Vauclair avait le maillot jaune et qu'il l'avait encore quelques jours de l'arrivée. Voilà, là, ça revient un événement purement sportif. Voilà.
Et oui, les chiffres qu'a donné Ludo sont impressionnants. Hein. On dirait la dette grecque, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Au niveau de ce tour 2015, on va y entrer petit à petit, mais voilà, on est assez unanime. Le Tour de France, bien sûr, des fois il est rythmé par des choses un petit peu désagréables, mais c'est vrai que quand même ça va beaucoup mieux depuis quelques années.
Peu importe. Puisqu'on parle d'événements préférés des Français, je pense que puisqu'il y a beaucoup de gens qui le regardent pour d'autres raisons,
Et on a des stars, des stars françaises. Thomas Vauclair, c'en est une. Hier, je sais pas si vous avez mis un peu la télé, là, pendant le championnat de France, quand il faisait ses grimaces encore. C'est un personnage.
Voilà, mais parce que ça fait très longtemps qu'on le voit, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le Tour de France. Si tu leur parles des petits nouveaux, mais ils le connaissent même pas.
Mais beaucoup de gens à qui sont pas mordus de sport, à qui je parle. Me parle du Tour de France, je leur dis, c'est qui votre favori? Oh, ben on le connaît pas.
Et voilà. Ils vont citer un ou deux à rigueur. Quoi.
C'est ça aussi. On s'en moque qui gagne.
Et on a beau dire, France Télé participe énormément à ce développement-là.
Oui.
Enfin, à cette culture du autour du Tour de France.
Ouais. Mais de toute façon, beaucoup.
Ils ont raison.
On peut en parler des commentaires également. Beaucoup critiquent Thierry Adam, mais Thierry Adam fait aussi ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que c'est de l'événementiel. Exactement. Et non pas du Canal Plus ou du Bibin Sport. Hein. C'est vraiment.
Mais c'est ça, parce que si c'était trop pointu sportivement, eh ben,
Perdrait du monde.
Je pense.
Voilà. Donc, tu nous rejoins, Ludo?
Ah oui, la sortie Riadan, tout à fait, même point de vue que toi.
Il est là pour faire de l'événementiel.
Voilà, et puis
grand public.
Si les gens regardaient sur la 2, c'était grâce aux commentaires de Jean-Paul Olivier, quoi. C'était des commentaires absolument géniaux, quoi. Et puis, une popularité, on part au niveau France, mais elle dépasse aussi le cadre de nos frontières. Hein. C'est un événement extrêmement populaire en Espagne, en Italie. On parle pas des Pays-Bas, quoi. Enfin, ils sont fans de Tour. Et même maintenant, les Anglais adorent vraiment le Tour de France.
T'as pas qu'ils gagnent, quoi.
C'est une épreuve que toute l'Europe s'approprie. Et bon, encore un départ de l'étranger cette année, mais ça, après, c'est un autre problème.
Oui, d'ailleurs, pour parler au niveau des Pays-Bas, pour signaler quand même que c'est pas nouveau que le Tour parte de l'étranger, puisqu'à 1954, déjà, le Tour était parti d'Amsterdam. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, en Hollande, on aime beaucoup le vélo. Et hier, il y a des statistiques en Hollande, il y a plus de vélos que d'habitants. Voilà. Donc,
c'est bien parti. Enfin, moi, je me rappelle en Espagne aussi, quand j'étais petit, je passais les vacances là-bas, et sur la chaîne nationale, il y a le Tour de France, sur les radios, on sait que les Espagnols sont des grands sportifs, sur les radios, il y a 2-3 radios qui retransmettent l'étape à partir de 14, 2-3 heures d'étape, à chaque jour. Hein. Donc, c'est vraiment très important.
Et pourtant, c'est intéressant que pendant les 10 dernières minutes.
Ouais.
C'est fou, ça. Hein.
c'est pas vrai pour tout. Cette année, il y a beaucoup d'arrivées au sommet, un peu.
Oui.
Et que dire des commentaires radio en Colombie?
Ah oui, les commentaires.
L'Amérique du Sud, moi, c'est somptueux quand ils font des reportages là-dessus. Moi, je trouve ça génial.
Nairo Quintana. Oui, dans la Colombie, c'est quelque chose.
Oui, je vous ai raconté dans une dernière émission qui mettaient des pièces dans les cabines téléphoniques à l'époque pour faire leurs commentaires et durer des heures au téléphone. Donc, ils étaient obligés le matin de faire de prendre beaucoup de pièces dans des petits sacs pour pouvoir à l'époque tenir l'antenne. Voilà. Mais ça, c'était en Colombie et c'est toujours la magie. Mais en Espagne, effectivement, je me souviens. Hein, dans les années 70-73, quand c'était Luis Ocaña qui allait défier Eddy Merckx, c'était des directs fabuleux sur les petites ondes, sur les radios espagnoles. C'était quelque chose.
Mika, t'avais d'autres débats, d'autres questions par rapport à ce Tour de France, ou je vous donne un peu le parcours en 3-4 mots?
Oh, les débats, ils vont venir avec le parcours peut-être aussi.
Ludo.
Ouais, j'ai un petit bémol à apporter. Alors, je sais pas, je vais demander peut-être au spécialiste Nico de Radio Vélo. Est-ce que tu trouves pas que le, Tour de France écrase un petit peu la concurrence des autres courses, on va dire, en France, quoi, hein, parce que financièrement, beaucoup de courses disparaissent, et c'est vrai que les sponsors préfèrent investir dans une valeur sûre comme le Tour de France, mais délaissent quand même un petit peu les autres courses. Je pense, il y avait Paris, Corrèze qui a disparu, c'est un exemple, hein, mais enfin voilà, quoi. Le Tour de France devait être une locomotive, et je trouve, voilà, un petit bémol là-dessus, je sais pas.
C'est normal. C'est normal, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que ça va au-delà du cyclisme. Le pur cyclisme ne remplit pas.
Ce ne sont pas les mêmes partenaires, ouais. mais c'est vrai que, alors que le Tour de France et toutes les plus grandes courses se portent très bien, Ludo, c'est vrai que les plus petites souffrent au plus haut point, Philippe.
Ben oui, parce que le Tour de France, c'est l'événement, donc on voit effectivement l'événement Tour de France, mais malheureusement, le cyclisme en particulier, ben, a perdu de l'audience pour les autres courses, que je veux dire. Bon, moi je me souviens dans les années 50-60, eh ben le cyclisme avait été juste derrière le foot dans les médias, hein. Maintenant, eh ben le cyclisme a une place beaucoup moins grande, à part dans les trucs vraiment spécialisés, mais qui sont des chaînes payantes, des choses comme ça, donc qui s'adressent aux spécialistes, aux sites internet qui sont bien faits, mais qui s'adressent aux spécialistes du cyclisme qui va voir le résultat de telle course, mais le grand public n'y va plus le voir. Donc voilà, le problème, c'est que le cyclisme est devenu quelque chose de jeune, c'est vraiment très très spécialisé, il a échappé un peu au grand public. Et le Tour de France revient à ça parce qu'il touche le grand public. Mais malheureusement, des courses magnifiques ont disparu, et ça, c'est bien dommage. Bien
Allez, on est ensemble jusqu'à 21h pour parler cyclisme. J'accueille notre amie Julienne de Radio Vélo qui nous a rejoint en plateau.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que c'est bien lancé depuis tout à l'heure.
Il est rentré.
Ça met l'eau à la bouche. C'est vrai que ouais, le Tour de France, c'est au-delà de, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà de l'événement sportif. Comme vous le disiez, ben c'est que ben France TV diffuse de superbes images de notre pays. Ça en fait la publicité, hein. On a de très très belles régions chez nous, et c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Olivier qui savait très bien les relater, ben ça faisait partie du spectacle du Tour. Et voilà, bon, après bon, on va pas faire la guerre entre Beansport ou France TV, qui s'est gagné le mieux, et bon.
Ben pour moi, c'est deux choses, c'est pratiquement c'est pas deux sports différents, mais c'est deux manières de voir le sport, quoi. C'est-à-dire que le Beansport, ça s'adresse plus à des spécialistes, et France Télévisions, mais ça s'adresse à la population entière, finalement.
Exactement.
Et heureusement, parce que sinon, je pense que, comme on l'a dit, s'il y avait des commentaires trop spécialisés sur France 2, ça marcherait pas.
Les gens, tous les jours, peut-être ne comprendraient pas et ne seraient pas attirés par ce qui est dit, alors que, voilà, là, on a la possibilité de choisir un petit peu, et c'est comme.
Alors que je me rappelle, même Nico
est devenu fan de Beansport. Qu'est-ce que j'ai fait,
alors que tu critiquais, t'es Beansport, fan de Beansport avec le Giro.
Non, mais finalement, ça coûte cher quand même. J'ai arrêté ces bêtises. J'ai vu d'ailleurs que ça n'a rien à voir, mais on n'en a pas parlé tout à l'heure. Eurosport qui a acheté les droits des JO, les deux prochains JO d'été et d'hiver.
Oui, mais ils sont en parallèle avec autre chose. Ils vont pas être tout seuls.
On espère. Le parcours, on en était là, Ludo. Tu nous as annoncé quelques il y a une petite musique là. J'ai cru que Mika nous mettait dit quelque chose. Le parcours, c'est vrai que c'était un Tour de France qui s'annonce exigeant, hein, avec beaucoup d'arrivées en altitude, trois arrivées au sommet dans les Pyrénées, trois arrivées au sommet dans les Alpes, mais surtout des étapes qui peuvent faire le spectacle et créer des surprises,
surtout,
que ce soit le mur.
Surtout la première semaine. Voilà. Je lisais un petit peu pas mal de d'infos là-dessus, et tout le monde a peur de cette première semaine, de se faire piéger, de tomber, d'être dans une bordure, c'est une première semaine où apparemment à l'issue.
C'est arrivé l'année dernière aussi.
Ben oui. Mais la scène-là va être compliquée aussi.
Parce qu'il y aura le mur de Huy, il y aura le mur de Bretagne. Le premier jour, c'est un chrono de 14 bornes. Il y aura le contre-la-montre par équipe du côté de Livarot, 28 km. Oui, Ludo?
Oui, d'ailleurs, j'aime bien, depuis que Christian Prudhomme gère ASO, là, la société organisatrice du Tour, j'aime bien la première semaine du Tour, parce que voilà, il prévoit des petites surprises, le mur de Huy, c'est pas monotone comme ça l'était, je sais pas, dans les années 80-90, où il y avait
c'était pour les sprinteurs, quoi.
Pleine, oui, pour les sprinteurs, voilà, après on arrivait à un contre-la-montre, et puis le favori du Tour écrasait tout, et le suspense était terminé. Là, au moins, il essaie de mettre en place un parcours pour vraiment maintenir le suspense, et comme tu as dit, mur de Huy, mur de Bretagne, voilà, le contre-la-montre par équipe, mais il n'y en a pas chaque année, donc voilà, c'est pas mal du tout. Et puis entre les Pyrénées et les Alpes cette année aussi, il y aura quelques quelques étapes vraiment casse-pattes dans une arrivée du côté de Mende, la Croix-Neuve, du côté de l'aérodrome de Mende.
Elle a
donc
monté...
un parcours que j'aime bien pour...
Elle a monté j'aime bien, mais c'est vrai que quand Christian Prudhomme ne sera plus là, je crois qu'il aura marqué de son empreinte le Tour de France de par l'époque où il était commentateur, mais surtout pour ce qu'il lui aura apporté en tant qu'organisateur et en tant que passionné de cyclisme. Voilà, ce parcours, ben c'est vrai que tout est en place pour qu'il se passe des choses ailleurs que dans la montagne, parce qu'il faudra attendre une dizaine de jours hein, avant le premier col dans les Pyrénées. Donc c'est vrai qu'il devrait y avoir des choses, ma foi, assez sympathiques.
Moi, ce qui me ravit effectivement, c'est que je rejoins un petit peu Ludo, c'est moi j'ai trop de souvenirs où, notamment Indurain ou tout ça, tu es rapidement le tour avec grâce au contre-la-montre. Quoi. Il y avait des contre-la-montre, il y en avait deux assez longs, et du coup, ben, c'est même les purs sprinteurs, les purs grimpeurs, ben, il n'y avait rien à faire.
Et tandis que là, aujourd'hui, ce sont les coureurs qui s'étaient adaptés au parcours du Tour de France. On avait des coureurs qui s'étaient préparés en fonction. On savait très bien qu'il y avait un contre-la-montre de 50 bornes, que sur un chrono, on pouvait coller 1 minute 30 ou 2 minutes à son adversaire, ben, c'était course pliée. Ben, ils préparaient comme ça. Quoi.
Et maintenant, ça a changé, puisque on m'a appris que cette année, il n'y a pratiquement pas de chrono quoi, individuel.
Il y a quand même 14 km d'entrée, et puis ben, après, un contre-la-montre par équipe qui peut compter, parce qu'on sait qu'il y a des équipes plus à l'aise que d'autres.
Un contre-la-montre par équipe qui sera très intéressant. C'est un profil que moi je n'ai personnellement jamais vu, avec une arrivée en côte.
Voilà.
Dans le contre-la-montre par équipe. Alors, sachant que le temps est pris sur le cinquième de chaque équipe, il va falloir que les coureurs qui ne sont pas très très grimpeurs s'accrochent comme il faut et que le leader n'aille pas trop vite.
Comme nous dit Guillaume, si la canicule s'en mêle aussi, on risque d'avoir beaucoup plus de dégâts qu'on a vu jusqu'à présent. Quoi.
Oui, c'est comme pour la deuxième heure, là, à l'émission, hein, avec la canicule, je crée des dégâts. Heureusement, Philippe est abreuvé au tropico depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même assez risqué. Hein. D'ailleurs, le Tour de France, ça sera un des débats des prochaines années, parce que la canicule ne va pas s'arranger. Il va faire de plus en plus chaud, le réchauffement de la planète et tout. On va voir comment le Tour de France... Est-ce que des tonnelles géantes seront telles qu'on voit romain
plutôt. Voilà, en Espagne...
Ah non, il y a d'autres courses plutôt.
Non, mais plutôt
en Espagne, ils courent le matin. En Espagne, c'est pas l'après-midi, ça c'est le matin. C'est tu vas courir là-bas, tu pars le départ, c'est à 9h, 9-10h. Parce qu'il fait plus chaud qu'ici, et voilà...
Le changement climatique.
Il y a eu des tours très 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 chauds, donc les coureurs ne sont toujours pas.
Ils avaient les maillots en laine à l'époque.
Le changement climatique, c'est 2 degrés en moyenne sur dans 100 ans. Je pense pas que 2 degrés de plus en été.
Ouais, mais il y a beaucoup plus d'écart.
Oui.
Il y a beaucoup plus de jours chauds en fait.
Pense à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants.
Ouais, une émission météo, hein.
Voilà, non, mais c'est
clair. Et donc, alors maintenant, du coup, qui va gagner?
Et qui va gagner? Alors, ben ça c'est une bonne question. On en parlera également lors de la deuxième heure, mais on va devoir un peu se mouiller parce qu'il n'est pas là après. Il veut entendre des pronostics.
C'est pas les mêmes.
Où en sont les leaders?
Exactement.
Ben les leaders, Contador a gagné le Tour d'Italie. Nibali et bien.
Et la Route du Sud.
Contador. Nibali, ben s'est préparé à sa façon. N'a pas fait le Tour d'Italie. C'est le tenant du titre, mais il a montré ce week-end qu'il était pas trop mal vu qu'il est redevenu champion d'Italie. Chris Froome, on le croyait un petit peu en dessous de ces derniers mois, mais il a montré sur le Dauphiné qu'il n'était pas du tout en fin de carrière. Hein. Que Froome avait encore de beaux jours devant lui. Quintana, il a fait le pari de ne pas faire le tour l'an dernier pour gagner le Giro. Bien lui en a pris vu que ça a marché. Cette année, il a fait très peu de compétitions, mais quand il a fait, il a plutôt bien fait. Et le voilà bien frais au départ du Tour de France. Et puis après,
sans chrono.
Deuxième
de la Route du Sud.
Il y a Vanguard de Rennes, l'Américain. Il y a Thibaut Pinot qui a fait troisième du dernier Tour de France. Il y a Jean-Christophe Perrault qui avait fait second, mais qui est en quête de certitude. Il y a Romain Bardet qui avait fait sixième, il me semble, l'an passé. Il y a beaucoup de monde, de toute façon, tous les grands coureurs sont là.
Talensky, je disais aussi.
Andrew Talensky, dans une équipe aux multiples facettes. Qu'est-ce que tu veux savoir, en fait, Yves?
Ben non, mais tout ça, parce que moi, j'entends...
Thomas Vauclair est là, comme d'hab.
Ici et là, les médias français, dire que pourquoi pas un Français devant et tout, mais est-ce qu'on ne nous vend pas un peu trop de rêves, là?
Oui, peut-être. Ben, en même temps, on en a eu l'an dernier. On ne l'avait pas vendu, on l'a eu. Alors, ma foi, il y a peut-être de ça.
Non,
après,
un
Français sur le podium cette année, ça risque d'être compliqué.
Il va falloir avoir une équipe très, très soudée, qui va bien digérer cette première semaine. où on sait qu'elle va être très accidentée, et il va falloir pouvoir appuyer et aider les coureurs sur le restant. Donc les Français oui, mais faut une sacrée équipe pour accompagner son leader pendant 3 semaines.
Ouais, Ludo, avant de nous quitter, tu voulais nous donner un peu tes pronos ou...
Oui, les pronostics, hein, mais moi de toute façon, c'est un peu comme toi Nico, je sais que ton favori c'est Quintana, c'est le mien aussi. Hein. Je pense qu'il va vraiment, je pense qu'il peut, il va gagner le tour, voilà. Enfin, c'est mon pronostic devant Contador et je mettrai une pièce, alors je sais pas, on va peut-être se moquer, tu l'as cité quand même dans les favoris, mais je sais pas ce qu'on va en penser, Julien par exemple, notre spécialiste vélo, mais je mettrai une pièce sur TJ Van Garderen.
Ouais. Ouais, c'est trop.
C'est intéressant.
Malheureusement, je pense que ça va être Froome.
Non, après trois semaines à gérer, c'est compliqué. Et je ne sais pas si pour l'instant il est au top.
On va reparler d'un deuxième heure de Van Garderen, Ludo. Je te conseille de rester avec nous. On va te laisser le mot de la fin parce qu'après il y a l'équipe de Radio Vélo qui arrive au studio. On est ensemble jusqu'à 21h. Qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Eh ben Van Garderen, ça va faire un plaisir à Stéphanie qui doit nous écouter. C'est ma petite femme, voilà. Elle adore la BMC. Van Garderen, elle adorait Cadel Evans, voilà, il y a quelques années. Ben voilà. Heureux d'avoir passé cette année avec vous. Et bien sûr, on se retrouve pour d'autres aventures très prochainement. Voilà, pour des aventures radio tous ensemble, voilà.
Voilà, restez connectés tout l'été sur les réseaux sociaux, le Twitter, le Radio Vélo, Diva du sport de Radio Vélo pour ne rien manquer de notre reprise. Merci Ludo et à tout de suite dans Radio Vélo, les autres.
À tout de suite, ciao, bonnes vacances, bon été à tous et à très bientôt sur nos ondes.
Merci, Radio Vélo arrive dans 2 petites minutes, restez avec nous sur cette radio.
Les girls sont faciles, dans la pénombre préférée, les dociles. Je veux toujours moins en faire, c'est clair, allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe.